Imagine un peu un jeune aujourd'hui. Je veux dire, toute sa vie sociale, son accès à l'info, ses loisirs, tout ça.
Ouais, tout va à 100 à l'heure, quoi.
Voilà, ça file à la vitesse de la fibre optique sur l'écran de son smartphone. C'est genre hyper instantané.
C'est clair.
Mais en même temps, à chaque fois que ce même jeune homme doit interagir avec l'économie réelle ou, je sais pas, chercher un emploi, faire une démarche administrative...
Le choc thermique.
Mais grave, il a l'impression d'être soudainement coincé dans une espèce de file d'attente qui n'a pas avancé depuis 1995.
Ah bah ça, c'est le cœur du problème actuel, en fait.
C'est fou. Donc aujourd'hui, on va se pencher sur une société qui est prise dans un gigantesque carambolage temporel. Allez, on décortique tout ça.
Je suis prête. C'est vraiment la grille de lecture parfaite pour aborder ce sujet complexe.
Du coup, la grande question, c'est comment un pays gère la pression qui vient de toutes parts. De son économie à sa culture, en passant par la géopolitique, quand le rythme de la rue dépasse de très loin celui de ses propres institutions.
Ouais, c'est le grand écart.
Exactement. Et pour comprendre ça, on plonge aujourd'hui dans les pages du magazine marocain iDébat, le numéro 27, très exactement.
Celui daté du 16 mai 2026, ouais.
C'est ça. Et notre mission dans cette plongée, c'est d'extraire la substantive moelle de ces articles qui sont honnêtement très denses.
Très denses, mais fascinants.
Ouais. Pour vraiment saisir comment les citoyens s'adaptent quand les systèmes traditionnels, ils sont tout simplement dépassés.
En fait, ce numéro, il est génial parce qu'il nous permet de faire une véritable radiographie des tensions du moment.
Une vraie photo à l'instant T.
Voilà, l'objectif, si tu veux, c'est de lire entre les lignes de ces différents dossiers pour comprendre la mécanique de cette époque de transition. Qu'est-ce qui se passe concrètement sur le terrain quand les rouages d'une société ne tournent plus du tout à la même vitesse?
Et pour répondre à ça, avant même de parler de grandes stratégies d'État ou de macroéconomie, le magazine commence là où ça fait le plus mal.
Le portefeuille.
Exactement, le portefeuille. Le quotidien pur et dur. L'édito s'attaque à un sujet hyper intime et sensible, l'Aïd al-Adha.
Ah oui, là, ils mettent les pieds dans le plat.
Mais vraiment. Historiquement, on le sait, c'est le moment de partage spirituel par excellence, la grande fête familiale joyeuse. Mais là, le texte utilise des mots très, très durs. Ils décrivent désormais cet événement comme un, je cite, « drame silencieux ».
C'est fort, ouais. L'auteur met vraiment le doigt sur une transformation sociale très profonde, avec l'inflation et, tu sais, la hausse continue du coût de la vie...
Qui n'en finit pas, au passage.
Bah oui. L'achat du mouton n'est plus seulement une galère économique pour plein de foyers, c'est carrément devenu une épreuve psychologique.
Attends, le texte parle même d'une humiliation silencieuse, c'est ça?
Exactement. Et c'est là qu'il faut s'arrêter deux secondes. L'enjeu, c'est pas juste de savoir si on peut consommer de la viande ou pas ce jour-là. C'est le poids de la norme sociale.
La pression des voisins, de la famille, quoi.
Voilà. Ne pas pouvoir offrir ce symbole à sa famille, ça touche directement à la dignité du chef de famille, en fait.
Et du coup, la conséquence directe de cette pression de dingue, c'est la fuite en avant. On voit des familles entières contracter des crédits à la consommation.
Avec des taux souvent faramineux, en plus.
Des taux lourds, ouais. Juste pour financer une fête religieuse. Et moi, ce que ça me dit, c'est à quel point nos amortisseurs sociaux traditionnels sont en train de céder.
Ah, c'est une bonne image, ça.
Tu vois, pendant longtemps, j'ai l'impression que la famille élargie, c'était ce grand amortisseur invisible. Tu traversais une mauvaise passe financière et hop, la grande famille absorbait le choc, on s'entraidait.
La solidarité de base, ouais.
Mais aujourd'hui, avec la vie urbaine qui est genre beaucoup plus individualiste et cette inflation qui écrase tout, cet amortisseur, il est clairement en train de rendre l'âme.
Totalement. Et cette perte du filet de sécurité de la famille, ça nous amène directement à une autre réalité qui fait mal, que le magazine souligne très bien.
Le marché de l'emploi.
Bah oui, la dureté de ce marché. L'article d'Adnan Debar décortique les derniers chiffres du Haut Commissariat au Plan, la fameuse enquête Et un mot 2026.
L'enquête sur la main-d'œuvre.
C'est ça. Et ces données, elles corroborent à 100% cette sensation d'étranglement. Tu sais à combien est le taux d'emploi au niveau national?
C'est bas, non? Dans les 30 quelque chose?
37,3%.
Ah ouais. Moins de 40%, c'est un chiffre qui fait froid dans le dos.
C'est très bas.
Mais attends, ce qui m'a vraiment marqué dans cet article, c'est cette nouvelle catégorie statistique-là que le HCP a carrément dû inventer. Il l'appelle la main-d'œuvre potentielle.
Ouais, les fameux 894 000.
C'est dingue. On parle de près d'1 million de personnes. Et attention, ce ne sont pas des chômeurs classiques.
Non, en fait, ce sont des gens qui sont techniquement disponibles pour travailler, mais qui ont purement et simplement jeté l'éponge. Ils ne cherchent même plus.
C'est fou de se dire ça.
c'est le symptôme le plus alarmant de ce que Desbarre appelle la désincercuronisation. Je veux dire, pourquoi près d'un million de gens abandonnent? C'est pas par flemme, tu vois?
Non, bien sûr que non.
C'est souvent par découragement profond, parce qu'il y a un décalage total entre les compétences qu'ils ont et ce que l'économie moderne réclame, ou alors à cause d'un isolement géographique.
Et quand tu zoomes sur la jeunesse, genre les 15-24 ans, c'est là que ça craque complètement. L'article parle d'un taux de sous-utilisation de 45,3%.
C'est énorme!
Pratiquement un jeune sur deux est laissé sur le bas-côté. Et du coup, ça nous amène à un débat économique qui est central dans ce numéro d'e-débat.
Le fameux duel entre deux visions de l'économie.
Ouais, deux visions diamétralement opposées sur la création d'emplois. D'un côté, t'as le Wali de Banque Al Maghreb, donc la banque centrale, qui tire à boulets rouges sur le secteur immobilier.
Il y va pas de main morte.
Non. Il estime que l'immobilier draine tous les capitaux, que ça génère très peu de valeur ajoutée technologique et qu'il faut absolument tout miser sur l'industrie. Et en face, t'as l'économiste Najim Mikou qui monte au créneau.
Et l'argument de Mikou est très pragmatique. Il ramène vraiment le débat à la réalité du terrain.
C'est-à-dire ?
Bah, il dit que l'industrie de pointe, c'est super, c'est l'avenir, mais ça prend des années, voire des décennies à se structurer. Et surtout, ça demande une main-d'œuvre hyper qualifiée.
Ce qu'on n'a pas forcément pour ces fameux jeunes exclus, quoi.
Et exactement. Alors que l'immobilier, en revanche, c'est de l'emploi de masse, tout de suite, maintenant.
Ouais.
Et ça ne s'arrête pas juste aux gars sur les chantiers de construction. L'immobilier, ça attire toute une chaîne de valeur locale derrière.
Ah oui, genre les fabricants de carrelage, la menuiserie, tout l'artisanat traditionnel.
C'est tout un écosystème qui vide ça.
Mais attends, je veux être sûr de bien capter le truc. On a d'un côté des centaines de milliers de jeunes sans diplôme pointu qui ont juste désespérément besoin d'un salaire à la fin du mois.
Oui.
Et de l'autre, des institutions financières de haut niveau qui veulent fermer le robinet de l'immobilier, le secteur qui embauche précisément ces jeunes-là, au nom d'un idéal industriel qui va mettre 10 ans à arriver. Il n'y a pas genre une contradiction massive là-dedans ?
Ah, mais c'est toute la tragédie de cette fameuse désynchronisation. C'est exactement ça.
Ouais, ouais, je vois.
Les institutions, elles réfléchissent sur un temps long, séquentiel, très macroéconomique. Mais la société, elle vit dans l'urgence absolue de boucler la fin du mois.
C'est le choc des temporalités.
Voilà, ça crée des frictions énormes. On a littéralement trois horloges qui ne tournent pas au même rythme. La société qui mute à toute vitesse, l'économie qui rame pour absorber cette main-d'œuvre non qualifiée et des institutions qui pilotent avec des modèles théoriques.
Des modèles super beaux sur le papier, mais en décalage total avec l'urgence sociale.
C'est ça.
Mais du coup, quand près de la moitié des jeunes ne trouvent pas sa place dans l'économie formelle et que les politiques publiques sont hyper lentes. Cette pression, elle disparaît pas par magie.
Ah ça non, elle s'évapore pas.
Elle finit où ? Dans la rue ou sur les écrans ? Et le magazine consacre une grosse partie à ce glissement très inquiétant. Le chroniqueur Aziz Bouktosata revient sur ces manifestations de la génération Z.
Les fameuses manifs surprises de septembre et octobre 2025.
C'est ça. Des manifs qui ont démarré, on le rappelle, suite à des décès tragiques dans une maternité à Agadir.
Et la dynamique de ces manifestations, elle était complètement inédite. L'appareil d'État était totalement pris de court.
Pourquoi ?
Parce qu'ils s'y attendaient pas du tout.
Parce que ce mouvement ne répondait à aucun logiciel politique classique. Il n'y avait pas de syndicat à la manœuvre avec des banderoles, tu vois. Pas de parti politique pour encadrer la foule et négocier.
Ah, c'était vraiment du direct, purement organique. C'est né sur les réseaux sociaux avec les codes très mondialisés de la Gen Z. Et le plus fou, c'est que leurs revendications n'étaient pas du tout idéologiques.
Non, elles étaient super pragmatiques en fait. Existentielles même. Ils réclamaient juste des hôpitaux dignes, une école qui fonctionne et de la transparence dans la gouvernance.
Exactement. Et 6 mois plus tard, l'analyse de Buxetta sur la réaction du gouvernement actuel, bah, elle dresse un constat très sévère.
Et là, petite parenthèse, pour ceux qui nous écoutent, on rapporte strictement l'analyse du magazine, hein, on ne prend parti pour personne.
Tout à fait, c'est important de le préciser. C'est l'auteur qui décrit le système éducatif comme confus avec un ministre qui lance des chiffres que personne n'arrive à vérifier sur le terrain.
Ouais. Et côté santé, le ministre concerné est décrit, je cite, comme sortant à peine d'une longue hibernation.
C'est le terme qu'il utilise.
Et pour couronner le tout, le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, est qualifié de quasi invisible. L'auteur dit qu'il évite systématiquement la confrontation médiatique ou l'explication avec les citoyens.
Et c'est là que Buxetta fait un lien très intéressant. Il relie ce mutisme du gouvernement à un choix législatif très précis, la fameuse loi 55-25.
Ah oui, cette loi.
C'est une loi qui vient verrouiller complètement l'interdiction des sondages d'opinion politique. Une mesure qui date à la base de 2016 d'ailleurs.
Ouais. L'argument officiel pour interdire ça, c'est quoi déjà ?
c'est de dire que les sondages pourraient être manipulés et fausser le jeu démocratique en influençant le vote des gens avant les élections.
Bon, sur le papier, je comprends la logique. Mais le résultat concret, tel que c'est détaillé dans l'article, c'est juste hallucinant.
C'est l'arroseur arrosé, quoi.
Totalement. En interdisant les instituts de sondage pro, ceux qui utilisent des méthodes scientifiques, des vrais échantillons, l'État n'a pas du tout supprimé le besoin de savoir ce que pensent les gens.
Ben non, la nature a horreur du vide.
Et ce vide, il a été rempli dans la seconde par des sondages sauvages sur Internet. On a tous vu ça, des sondages sur X ou Facebook qui drainent des centaines de milliers de clics.
Des trucs totalement incontrôlables.
Sans aucune méthodologie et potentiellement financés par des influences étrangères hyper opaques. En voulant éviter la manipulation officielle, on a littéralement privatisé la manipulation au profit des algorithmes. C'est le serpent qui se mord la queue.
C'est le paradoxe absolu. Gouverner sans data fiable aujourd'hui, c'est choisir de piloter un avion dans un brouillard épais sans aucun instrument de bord.
C'est suicidaire politiquement.
L'État se prive volontairement d'un outil pour prendre le pouls de sa population. Et ce silence des données, si tu le couples au silence institutionnel face aux crises, comme le scandale Jabarou qui est mentionné dans le texte...
Ça crée un climat détestable.
Ça crée un terreau hyper fertile pour une méfiance généralisée, ouais.
Et d'ailleurs, le pire, selon l'article, c'est pas juste que la jeunesse casse des abribus, c'est qu'elle se tourne vers une espèce de justice alternative complètement virtuelle.
Les tribunaux populaires en ligne.
Voilà. Face au silence officiel, on voit naître ces tribunaux. Une personne ou une entreprise est jugée, condamnée et exécutée socialement sur les réseaux. Bien avant que la justice ou l'État n'aient eu le temps de sortir un pauvre communiqué de presse.
Et c'est là que l'alerte lancée par le chroniqueur est majeure. Le risque final de ce climat de suspicion, c'est pas seulement que le gouvernement perde des points de popularité. Ça, c'est le jeu politique.
C'est quoi le vrai risque, alors ?
C'est le risque civique d'un désengagement total. L'idée qu'une génération entière pourrait juste tourner le dos aux prochaines élections. Se dire que la classe politique traditionnelle, les partis, ça sert strictement à rien.
Une rupture définitive du contrat de confiance, quoi.
Exactement.
Mais c'est cet aveuglement face à la réalité, c'est pas juste un problème de politique intérieure. Si on dézoome un peu, on regarde la scène internationale. Le magazine montre que certains acteurs géopolitiques sont eux aussi complètement enfermés dans leur bulle.
À ça, le déni de réalité, ça traverse les frontières.
Le contraste est ouf. Aziz Daouda analyse une lettre qui a été envoyée à l'ONU le 10 mai 2026 par Brahim Ghali, le chef du Polisario, depuis Bir Lashlou.
L'expression que Daouda utilise pour décrire cette lettre est juste brillante. Il parle de littérature politique fantastique.
J'adore cette formule.
C'est tellement ça. En lisant le document, on a l'impression d'ouvrir une capsule temporelle figée dans la rhétorique tiers-mondiste des années 70, tu vois, en pleine guerre froide.
Et l'analogie qu'il fait dans le texte est hyper précise. Il compare le Polisario à ces vieux aristocrates complètement ruinés qui vivent dans un château dont le toit est en train de s'effondrer.
Mais qui continuent de signer des chèques en voie.
Voilà, imperturbable. Il signe des chèques sans provision. C'est un délit total. Dans cette fameuse lettre, il dénonce une guerre ouverte imaginaire et il réclame le retour à un cessez-le-feu qu'ils ont eux-mêmes rompu unilatéralement il y a quelques années.
C'est lunaire.
Et pendant ce temps-là, dans le monde réel, le Maroc continue de construire des ports titanesques, attire des milliards d'investissements mondiaux et développe les villes de Dakhla et Laayoune à une vitesse folle.
Là, c'est le danger de l'inertie diplomatique. Quand un mouvement politique n'a plus aucune prise sur la réalité économique ou juridique sur le terrain, il ne lui reste plus que l'incantation verbale.
C'est triste, en fait.
Mais attention, cette illusion de contrôle, c'est pas le monopole du Polisario, hein. Le magazine fait ensuite un saut géopolitique vraiment intéressant pour nous emmener vers l'une des zones les plus inflammables du globe.
Le détroit d'Ormuz ?
Exactement. Et là, l'analyse de Mustapha Sehimi nous plonge dans une crise d'une toute autre envergure.
Ah ouais, là on rigole plus. L'Iran se met à bloquer des navires commerciaux dans le détroit, ce qui est une violation directe de la Convention de Montego Bay de 1982.
Pour rappeler, Montego Bay, c'est un peu la constitution des océans, le traité qui garantit le droit de passage dans les détroits internationaux.
C'est ça. Et pour contrer l'Iran, que font les États-Unis ? Ils envoient une armada colossale. 15 navires de guerre, 10 000 militaires, un blocus pur et dur. Et c'est là que l'auteur sort une carte complètement inattendue pour analyser cette crise de 2026.
Et cite Sun Tzu.
Mais oui.
Le stratège chinois du 4e siècle avant Jésus-Christ. C'est fou de convoquer Sun Tzu pour parler de Hormuz aujourd'hui.
Mais c'est extrêmement pertinent en fait. Sun Tzu, il disait que l'essence même de la guerre, c'est pas la destruction physique, c'est la capacité à façonner la perception de la réalité chez l'ennemi.
Et donc, ce que Suhaimi veut dire à travers ça, c'est qu'il y a une différence fondamentale entre la tactique militaire brute et la vraie stratégie politique.
Absolument.
C'est vraiment là-dessus que j'aimerais qu'on s'arrête 2 secondes. Parce que concrètement, comment tu appliques la philosophie d'un mec d'il y a 2500 ans à des porte-avions en 2026 ? Je veux dire, déployer 15 énormes navires de guerre, ça en jette. Mais c'est quoi l'objectif final de Washington ?
C'est toute la question. Est-ce qu'ils veulent faire tomber le régime à Téhéran ? Détruire des bases ? Ou juste faire les gros bras pour effrayer l'adversaire ?
C'est la question centrale de la dissuasion, en fait. La dissuasion, c'est d'abord un mécanisme psychologique.
Ok, c'est de la com, presque.
D'une certaine manière, oui. Si tu gares 15 navires de guerre devant chez ton adversaire, mais que cet adversaire sait très bien que ton opinion publique à toi ne soutiendra jamais une vraie guerre ouverte...
Ah bah, tes navires ne servent à rien.
Exactement, stratégiquement, ils sont inutiles. C'est de la pure gesticulation. Le drame, que ce soit à Hormuz avec ce bras de fer ou dans le Sahara avec la rhétorique du Polisario, c'est quand l'outil militaire ou la posture martiale perd tout lien avec un objectif politique clair.
Ouais, engager des forces sans savoir quelle réalité tu veux imposer en la fin, c'est le meilleur moyen de s'enliser.
C'est l'assurance d'un échec cuisant.
Donc si on résume l'état des lieux dépeint par le magazine jusqu'à présent, on a une pression économique super étouffante au quotidien,
ouais.
Une jeunesse qui se sent exclue et qui fait ses propres procès en ligne, et un monde géopolitique où les acteurs s'enferment dans des démos de force qui tournent à vide.
Le tableau est un peu sombre, on va pas se mentir.
Ouais, mais du coup, face à tout ce bruit, face à ces énormes frictions, qu'est-ce qui maintient encore la cohésion d'une société ? Qu'est-ce qui nourrit l'âme du pays ?
Le magazine a une réponse très claire dans sa dernière partie.
C'est la culture.
Voilà. Sauf que même cette culture, elle est aujourd'hui soumise à une pression technologique sans précédent.
Rien n'est épargné. L'article de Naïm Kamal nous fait vivre la clôture de la 31e édition du Ciel, le salon international de l'édition et du livre, qui s'est tenu à Rabat. Rabat qui était alors consacré capitale mondiale du livre.
En apparence, quand tu lis le truc, c'est un triomphe logistique et populaire.
Ah oui, on parle de 3 millions d'exemplaires exposés, avec Ibn Battuta comme fil rouge. C'est magnifique. Mais...
Il y a un grand mais.
Ouais. Sous le vernis de la fête, l'article décrit une angoisse existentielle assez lourde chez les intellectuels et les éditeurs présents.
Une angoisse qui est entièrement tournée vers le bouleversement numérique. Les débats du salon ont été vampirisés par l'arrivée massive de l'intelligence artificielle générative.
L'ombre de l'IA plane partout. Ils ont beaucoup discuté de l'émergence du livre conversationnel. Tu vois ce que c'est ?
C'est fascinant, les terrifiants à la fois. L'idée, c'est qu'un livre n'est plus une œuvre figée que tu lis du début à la fin.
C'est devenu une espèce de base de données.
C'est ça, une base avec laquelle le lecteur interagit directement via une IA. Et l'auteur se demande, à juste titre, si cette accélération permanente de nos écrans n'est pas en train d'assassiner le temps long.
Et le temps long, c'est la condition sine qua non de la lecture profonde, de la réflexion. C'est pour ça que la scène finale de l'article, avec le salon qui se vide de ses visiteurs le dernier jour, elle est décrite avec tellement de mélancolie.
C'est une métaphore très puissante de la fin d'un cycle. Une société, elle a besoin de ce temps long pour s'ancrer, pour se construire.
Alors que l'IA, elle propose tout sauf de la réflexion. Elle te file de l'exécution instantanée.
Exactement. Et cette nostalgie du temps long, du travail vraiment méticuleux de l'esprit humain, elle trouve une résonance absolument magnifique dans le tout dernier texte du magazine.
Oh là là, ce texte. Signé Aziz Daouda. C'est un hommage bouleversant à Abdelwahab Doukali, le monument de la chanson marocaine, récemment décédé.
Une véritable déclaration d'amour à ce que Daouda appelle la patience artistique.
Et l'anecdote qu'il partage sur la création de la chanson Agar Alaiki, c'est juste... c'est fascinant. Pour poser le contexte pour ceux qui nous écoutent, c'est une chanson dont le texte exprime une jalousie obsessionnelle, presque dévorante, maladive.
Et le truc important... c'est que les paroles avaient été écrites du point de vue d'une femme.
Sauf que c'est Doukali, un homme, qui devait la chanter.
Et c'est là que le génie de l'artisan intervient. Chanter cette folie possessive, telle qu'elle, au premier degré, venant d'un homme de sa stature...
Ça aurait fait bizarre, ouais.
Ça aurait pu manquer d'élégance, paraître déplacé. Et Daouda raconte comment, sur la route de Marrakech, Doukali a cherché, creusé, retourné le problème dans sa tête pour trouver une solution.
Et la solution, elle tenait en un seul et unique mot. Un mot, Ila. Il a ajouté juste avant le tout début du texte le mot Qalat, qui signifie « elle a dit » en arabe.
C'est brillant.
Mais c'est vertigineux. Un seul mot rajouté, « elle a dit ». Et d'un coup, bam, tout bascule. Doukali ne subit plus la chanson, il la théâtralise complètement.
Il devient le narrateur.
Voilà, il se place en narrateur, ce qui lui donne cette distance nécessaire et surtout le droit d'interpréter cette émotion extrême avec une noblesse absolue.
C'est ce petit détail minuscule, cette patience d'orfèvre, qui transforme une jolie mélodie en un chef-d'œuvre intemporel. Daouda le qualifie même de figure incarnant un Maroc qui est un pont, un Occident dialoguant harmonieusement avec l'Orient.
La rationalité mariée à la passion, c'est beau.
Et cette anecdote, au fond, elle cristallise tout notre décryptage d'aujourd'hui.
Ah oui, le contraste est flagrant.
Prends le temps qu'il a fallu à Doukali, sur cette fameuse route, pour peser le poids d'un seul mot. Et mets ça en face des générateurs de textes ou de musique paria d'aujourd'hui.
Qui te recrachent des couplets stéréotypés en quoi ? 3 secondes chrono ?
Sans aucune conscience de la charge émotionnelle des mots. Le passage d'une culture vraiment vécue, avec ses doutes et son humanité, à une culture consommée et générée par des algos, c'est peut-être l'ultime forme de désynchronisation abordée par ce numéro.
Quel voyage immense à travers ces pages. Franchement, si on rassemble toutes les pièces du puzzle qu'on vient de manipuler...
On a vu pas mal de trucs.
On a observé une jeunesse qui déserte les urnes, mais qui réinvente la manif spontanée sur les réseaux. On a vu l'inflation ronger les symboles familiaux les plus intimes, comme l'Aïd.
On a décortiqué l'effondrement de ces vieilles rhétoriques politiques déconnectées, du Polisarius jusqu'à Hormuz.
Et pour finir, on a contemplé la beauté de l'artisanat humain, qui doit faire face au tsunami de l'IA.
En définitive, ce que ce magazine nous offre, c'est un portrait sans concession d'une transition à très haut risque. Les anciennes structures, qu'elles soient économiques, politiques ou sociales, elles n'arrivent plus à suivre la cadence.
C'est clair.
Mais en même temps, ça prouve que la vitalité de la société marocaine est bien là. Elle innove, elle change des solutions, même si ça passe par le rejet des vieux cadres.
Et ça m'amène à une réflexion finale. Une idée que je veux laisser à ceux qui nous écoutent pour prolonger tout ça. Tu sais, on a vu que toutes nos institutions traditionnelles agissaient comme des intermédiaires, des amortisseurs.
Oui, on en parlait au début.
La famille élargie amortissait les chocs économiques, les partis politiques amortissaient les colères citoyennes. L'école filtrait le savoir et l'éditeur filtrait la création littéraire.
Et aujourd'hui, tous ces intermédiaires semblent complètement court-circuités.
Ouais, au mieux désynchronisés. Alors voici la vraie question. Si cette jeunesse vit, pense et agit à la vitesse de la fibre optique, est-ce que le Maroc de demain, et nos sociétés modernes en général, ne vont pas devoir inventer un tout nouveau modèle de contrat social ?
Ah, un contrat social 2.0 ?
Voilà. Un truc totalement décentralisé, foncièrement numérique, qui fonctionnerait en se passant définitivement des anciens intermédiaires pour se réguler de pair à pair.
Et la question qui tue, c'est est-ce qu'une société peut survivre à long terme sans ses pare-chocs traditionnels ?
Exactement. C'est le grand défi de la prochaine décennie, je pense. Savoir si ce modèle sans intermédiaire, ce sera synonyme de liberté totale ou de chaos absolu.
C'est une excellente question pour conclure.
Une interrogation qu'on vous invite à garder dans un coin de la tête. Pour reprendre l'image de notre jeune homme du tout début, bloqué entre la vitesse d'Internet et la lenteur du guichet de 1995, la file d'attente va devoir avancer, d'une manière ou d'une autre. L'enjeu, c'est de savoir si le guichet va s'adapter ou simplement disparaître.
Merci à tous de nous avoir suivis.
Ouais, merci à toutes et à tous pour votre attention dans cette exploration complexe. Prenez le temps de réfléchir à toutes ces mutations, peut-être avec la patience d'un artisan des mots, loin du tumulte des flux instantanés.
À très vite.